Il est 20h à Paris, 23h à Islamabad, et c'est l'heure de votre émission d'actualité internationale et de géopolitique.
À l'oreille du monde,
géopolitique et actualité internationale.
Un samedi par mois,
à 20h,
sur Radio Campus Paris.
Bonsoir tout le monde et bienvenue dans À l'oreille du monde, je suis Léo LB et comme dans chaque numéro je vous propose une nouvelle destination. Aujourd'hui on part en Asie, direction le Pakistan, on va se plonger dans la politique étrangère de ce pays très intéressante parce que très intelligemment gérée par Islamabad qui se positionne même comme intermédiaire entre deux puissances en guerre. On l'a vu la semaine dernière avec les tentatives de négociation qui ont eu lieu entre Washington et Téhéran dans la capitale pakistanaise. Mais l'actualité du Pakistan c'est aussi des conflits, en particulier avec l'Afghanistan et plus généralement contre certains talibans, on va le voir. Les relations pakistanaises sont aussi tendues avec l'Inde, cela depuis longtemps, mais le Pakistan n'a pas que les ennemis, loin de là, Pékin, Ankara, Riyad, Washington. Comment ses alliés, mais aussi les ennemis du Pakistan, façonnent-ils la politique étrangère d'Islamabad? C'est l'une des questions que l'on va se poser ce soir et que je vais pouvoir poser à mon invité, Didier Chaudet, spécialiste du monde persanophone, dans quelques instants. Avant ça, je vous propose la carte d'identité du Pakistan. Et en fin d'émission, on écoutera Florent et son pas de côté. À l'oreille du monde, ça commence tout de suite.
À l'oreille du monde, sur Radio Campus Paris.
Le Pakistan, ce n'est pas un petit pays d'Asie du Sud. C'est plus de 255 millions d'habitants sur un territoire une fois et demi plus vaste que la France. C'est la deuxième plus grande population musulmane du monde après l'Indonésie. Le Pakistan se trouve au carrefour de l'Asie centrale, du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud, voisin de l'Afghanistan, de l'Iran, de la Chine et de l'Inde. Mais le Pakistan, c'est surtout une mosaïque de peuples, de langues et d'identités qui cohabitent parfois difficilement. La région du Pendjab, par exemple, domine démographiquement et politiquement. C'est d'ailleurs une critique faite à leur encontre par d'autres populations pakistanaises. Plus au sud, on trouve les Sindhi qui revendiquent leurs ressources et leur identité culturelle. À l'ouest, le Baloutchistan, immense et riche en gaz, il reste pourtant pauvre et est devenu le théâtre d'une insurrection séparatiste réprimée dans le sang. On compte plus de 37 millions de Pashtuns. À cheval entre le Pakistan et l'Afghanistan, ils se sentent parfois plus proches de Kaboul, donc de l'Afghanistan, plutôt que d'Islamabad, du Pakistan. Et puis il y a le Cachemire, revendiqué à la fois par le Pakistan et l'Inde et partiellement occupé par la Chine. C'est la première source de conflits dans toute la région. Pour comprendre ce pays, le Pakistan, il faut remonter à 1757. Les Britanniques commencent à prendre le contrôle du sous-continent indien. En un siècle, ils dominent tout. Hindous, musulmans, sikhs se retrouvent donc sous la même couronne. Et si je résume grandement, en 1947, les Britanniques se retirent et tranchent des frontières. Un état hindou est créé, l'Inde, et un état musulman, le Pakistan. Une partition, d'ailleurs parmi les plus sanglantes de l'histoire, 14 millions de déplacés et près de 500 000 morts. Cette partition lancera aussi une série de guerres indo-pakistanaises sur la question du Cachemire. Et dès la naissance, une institution au Pakistan va tout dominer, c'est l'armée. Trois coups d'État en 50 ans, 1958, 1977 et 1999. Aujourd'hui encore, l'armée contrôle tout sous une couverture démocratique. En 1998, cette armée fait du Pakistan une puissance nucléaire, la 7e mondiale, mais sans avoir signé le traité de non-prolifération. Pourtant, cette puissance ne protège pas de la menace intérieure. Le Pakistan, c'est le deuxième pays le plus touché par le terrorisme dans le monde, et la violence aux frontières reste explosive. En avril 2025, par exemple, un attentat au Cachemire tue 26 touristes et a failli déclencher une guerre entre deux puissances nucléaires, l'Inde et le Pakistan. Voilà pour la carte d'identité que je vous ai dressée du Pakistan. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout de suite parler du commerce, des relations internationales et plus largement de la géopolitique du Pakistan avec mon invité Didier Chaudet. Didier Chaudet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes spécialiste de la géopolitique du monde persanophone et du Pakistan, associé à l'Observatoire de la Nouvelle-Eurasie. Et je peux rajouter que vous avez vécu au Pakistan, en Iran et en Afghanistan. Et aujourd'hui, vous êtes là pour nous aider à éclairer la situation pakistanaise. Pour commencer, revenons un peu en arrière. J'ai rappelé tout à l'heure la naissance du Pakistan en 1947, un État créé pour regrouper les musulmans du sous-continent indien, mais créé sur un territoire très hétérogène, comprenant le Pendjab, Sindh, les zones Pachtounes, le Baloutchistan et le Cachemire. Qu'est-ce que la partition de 1947 a laissé comme héritage politique au Pakistan aujourd'hui, si on doit retenir une ou deux grandes idées ?
C'est un héritage de souffrance, c'est un héritage de peur. Vous avez évoqué le Cachemire, mais en fait, il n'y a que l'Azad Cachemire et le Gilgit-Baltistan. Le reste du Cachemire est tenu par l'Inde. Et l'Inde considère que le Cachemire tenu par le Pakistan est occupé. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il y a cette idée que la seule discussion possible d'un point de vue de l'Inde, de Modi en particulier, avec le Pakistan, c'est forcément pour récupérer ces territoires. Donc, on est face à deux pays nucléarisés maintenant qui pourraient rentrer en guerre pour ces questions de territoire. Ça a été une souffrance terrible, cette partition, parce qu'elle ne s'est pas faite exactement comme prévu. Elle a été vue comme injuste par les Pakistanais. Ils n'ont eu accès par ailleurs qu'à une minorité de ce qu'on pouvait trouver en termes d'industrie dans le Raj britannique. Très clairement, ils ont hérité d'un territoire qui était relativement faible par rapport à celui de l'Inde, bien sûr. L'Inde qui a su bien mener ses cartes, jouer du sécularisme quand c'était nécessaire, mais jouer la carte de la majorité hindoue aussi quand ça allait dans son sens. Et parfois utilisant la force, parfois utilisant la persuasion, Nehru ici a extrêmement bien joué et a permis de poser les bases en fait, d'une Inde puissance face à un Pakistan un petit peu affaibli. Ensuite, vous avez eu cette première guerre entre l'Inde et le Pakistan qui n'est pas allée en faveur du Pakistan. Ils ont perdu une bonne partie du Cachemire. Et c'est à partir de là que vous voyez l'armée s'imposer comme acteur clé pour protéger ce qui restait de ce territoire qui devait protéger les musulmans d'Asie du Sud.
Et justement, cette armée, quel rôle elle joue concrètement au Pakistan aujourd'hui ?
C'est un rôle primordial. Je dirais qu'aujourd'hui, dans la période post-Imran Khan, c'est vraiment ce qu'on peut appeler l'État profond. C'est-à-dire c'est l'État qui s'occupe des grands sujets qui touchent à la survie de l'État pakistanais. Donc la défense, les grandes orientations géopolitiques, diplomatiques, sont pensées d'abord par l'armée. Et le ministère des Affaires étrangères, ici, sera là en soutien plus qu'en direction.
Un autre point intéressant qui s'est fixé dès la partition, et vous l'avez déjà énoncé, c'est la relation Pakistan-Inde. Depuis l'indépendance, le Pakistan vit en face d'une Inde, vous l'avez rappelé, beaucoup plus peuplée, beaucoup plus riche que lui, en conflit sur la question du Cachemire. Justement, comment l'armée et le face-à-face avec l'Inde ont structuré la politique étrangère du Pakistan ? Est-ce que c'est un point essentiel de la politique étrangère pakistanaise encore aujourd'hui ?
C'est un point capital. En fait, des auteurs britanniques présentent le Pakistan comme un pays qui a cherché, depuis sa création, à échapper à l'Inde, donc à échapper à sa géographie, parce que l'Inde, c'est juste en face. Les liens, en fait, sont très forts. Vous avez aussi beaucoup de musulmans en Inde. Et il y a toujours cette comparaison entre l'Inde et le Pakistan. Donc, très clairement, il y a la peur de se voir éradiquer, de se voir détruire, de se voir fracturer par l'Inde, d'autant plus que c'est l'implication de l'Inde qui a permis au Bangladesh de se libérer. Bien entendu, il y avait aussi des tensions internes. Un des grands points communs entre l'Inde et le Pakistan, c'est plutôt que de voir les erreurs qu'ils font en interne, ils préfèrent dire que tout est de la faute du voisin. Donc c'est ça aussi, ça peut empêcher l'Inde, comme le Pakistan d'ailleurs, de se réformer de l'intérieur, de comprendre que parfois des erreurs ont été faites. Mais la logique du Pakistan depuis sa création, comme il s'agissait d'échapper à l'Inde, il a fallu se protéger. Et comment se protéger ? Ça a été la nucléarisation du pays. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la nucléarisation et les missiles, c'est ce qui protège le Pakistan aujourd'hui, très clairement, en plus d'une diplomatie intelligente.
Et de l'autre côté, comment l'Inde réagit ? Comment est-ce qu'elle voit cette situation avec le Pakistan ?
En fait, on voit une certaine évolution du temps du Congrès, en fait, du temps où le BJP était vraiment minoritaire. Vous aviez un vague mépris par rapport au Pakistan, le désir de ne pas se montrer dans une logique de guerre de civilisation, donc de dire qu'au contraire, non, on accepte les musulmans sans aucun problème. Mais avec le BJP, la situation qui est assez particulière, c'est qu'en fait, l'Inde et le Pakistan sont aujourd'hui véritablement en miroir. Il y a une obsession par rapport à l'identité religieuse, pas comme quelque chose qui vous fait vous tourner vers le ciel, mais plutôt qui vous amène à vous différencier d'autrui. Certains présentent le nationalisme hindou comme une sorte de logique de djihadisme ou de talibanisme indien. Ça n'est pas totalement faux, vu la haine énorme que cela génère par rapport aux minorités musulmanes, mais aussi chrétiennes. Et aujourd'hui, on peut dire qu'en effet, on est dans une logique de choc de civilisation, plus presque aujourd'hui du côté de New Delhi que du côté d'Islamabad. Il y a eu une évolution qui s'est faite du côté du Pakistan après la guerre contre le terrorisme, qui a renvoyé au visage des leaders militaires comme civils les erreurs qui ont été faites dans les années 80 de soutien à l'islamisme radical.
Avant de passer à l'actualité chaude, il faut qu'on aborde un dernier point important, ce sont les talibans. Pendant des décennies, Islamabad a soutenu des acteurs islamistes, notamment les talibans, mais pas que, dans le but de peser dans la région. Et il me semble que le Pakistan attendait beaucoup du retour du mouvement taliban en Afghanistan en 2021. Ce qui me paraît logique de vous demander, Didier Chaudet, c'est avec ce qu'on voit aujourd'hui, c'est comment ce choix, ce soutien d'Islamabad s'est retourné contre le Pakistan ?
En fait, il faut comprendre aussi d'où ce soutien est venu. Ça n'était pas un choix uniquement idéologique, ça n'était pas un choix d'abord idéologique, c'était un choix géopolitique. C'est très marquant quand on parle avec les militaires, qu'ils soient conservateurs ou plus progressistes, les militaires pakistanais, à quel point ils sont obsédés par la géopolitique, mais la géopolitique 19e siècle créée par les Britanniques. On retrouve un peu ça en Inde, mais au Pakistan, c'est véritablement une obsession. Et on a évoqué le désir d'échapper à l'Inde, mais une des autres obsessions du Pakistan, c'était de ne pas se retrouver pris en étau entre l'Inde, ennemi héréditaire, et l'Afghanistan, qui n'a jamais accepté la frontière afghano-pakistanaise. Pour les nationalistes afghans pachtounes, le peuple pachtoun a été séparé en deux par les Britanniques. Et donc, à la disparition du Raj britannique, il s'agissait de récupérer au moins les territoires pachtounes. Et comme vous avez une vieille histoire d'un vieux royaume afghan au XVIIIe siècle qui avait également inclus les Baloutches, certains nationalistes afghans parlaient aussi de récupérer le Baloutchistan et en fait de prendre l'équivalent de 50% du territoire pakistanais, ce qui, bien sûr, vu l'histoire du Pakistan, effrayait énormément à plus haut point. Ça n'était pas juste moqué, ça effrayait un petit peu parce que ça donnait l'impression véritablement de pouvoir être pris en étau entre les deux ennemis. Donc, vous avez eu ce désir d'éviter que l'Afghanistan soit un ennemi. Et comment vaincre des nationalistes en Afghanistan, c'était d'utiliser des islamistes. Et par la suite, vous avez eu ce soutien par rapport aux talibans parce qu'ils semblaient pouvoir rétablir l'ordre. Mais à chaque fois, en fait, les Pakistanais ont été déçus. Ils ont été déçus par le Mollah Omar parce qu'ils l'ont soutenu, parce qu'ils pensaient qu'il allait empêcher cette guerre civile de continuer en Afghanistan post-retrait des Soviétiques. Ça n'a pas marché. Et maintenant, ils pensaient qu'en étant un lien, en ayant ouvert des portes aux talibans afghans, ils allaient pouvoir les influencer. Ça n'a pas marché à nouveau parce que les talibans afghans, malgré tout leur discours religieux, restent des pachtounes et des nationalistes pachtounes. Et pour eux aussi, comme pour leurs comparses anciennement communistes, la frontière est un anathème.
Et aujourd'hui, on peut parler de guerre ouverte concrètement entre le Pakistan et l'Afghanistan ?
Il y a eu ça a commencé comme ça, là ça s'est calmé un petit peu tout simplement parce que les talibans afghans n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Mais il ne faut pas croire que ça s'est arrêté, que c'est fini. C'est quelque chose qui peut revenir en force extrêmement vite. Les tensions à la frontière sont aussi le fait d'acteurs locaux, notamment de talibans afghans et de talibans pakistanais. Il ne faut pas imaginer que Kaboul réussit à tenir ses forces à la frontière afghano-pakistanaise. Donc ça, plus le fait que vous avez ce sentiment nationaliste pachtoun extrêmement fort et une haine du Pakistan qui a été en fait largement diffusée déjà par le précédent régime, mais qu'on retrouve encore aujourd'hui, fait que vous pouvez avoir un retour des tensions à n'importe quel moment. On peut parler de guerre froide qui peut devenir une guerre chaude à n'importe quel moment.
Avant de poursuivre, je vous propose une pause musicale, locale comme d'habitude. On écoute Wish Pardesan, un grand classique de la musique pakistanaise, Nusrat Fateh Ali Khan, et remixé par Dr. Zeus. On se retrouve dans quelques instants dans À l'oreille du monde. D'écouter Wish Pardesan de Nusrat Fateh Ali Khan, remixé par Dr. Zeus. Merci d'écouter À l'oreille du monde. On continue de parler de la géopolitique du Pakistan avec Didier Chaudet.
À l'oreille du monde, géopolitique, un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.
Maintenant, venons-en à l'actualité chaude. Depuis ces deux dernières années, le Pakistan est embourbé dans une situation assez lourde, frappe croisée avec l'Afghanistan au nom de la lutte contre les talibans pakistanais du TTP, tension avec l'Iran sur le Baloutchistan, et en même temps, le Pakistan essaye de jouer un rôle d'intermédiaire dans les contacts entre Washington et Téhéran. La semaine dernière, le Pakistan accueillait en effet les négociations directes entre les États-Unis et l'Iran. Comment expliquer, Didier Chaudet, que ce pays lui-même fragilisé, se retrouve à la fois acteur du conflit et au centre de certaines négociations entre les États-Unis et l'Iran, par exemple.
Ça me semble être un point extrêmement important, parce que quand on regarde l'analyse médiatique française, parfois on simplifie à l'extrême, y compris dans un certain nombre de chaînes d'informations en continu, les forces des différents États. Parce que l'Inde s'est renforcée, parce que l'Inde est économiquement forte, militairement impressionnante aujourd'hui, on imagine que le Pakistan est un État faible, voire failli, parce qu'il a été confronté au terrorisme. Alors qu'en fait, on est face à une puissance moyenne, qui a une armée en bon état de marche, qui a réussi à se stabiliser, qui a une énorme population, une énorme démographie, qui a des atouts aussi de développement économique s'ils sont bien gérés à l'avenir. Et encore une fois, qui est nucléarisé. Donc aujourd'hui, quand on est une puissance nucléarisée et qu'on a une capacité de toucher au Moyen-Orient et à l'Asie du Sud, on n'est pas rien du tout. Et on attendait depuis 2001 que le Pakistan s'écroule, ça n'est pas arrivé et ça n'arrivera pas forcément demain. On est face à un pays aussi qui a une bonne diplomatie, qui a su apaiser les choses avec l'Iran, qui a su dialoguer avec les Américains. Le rapprochement avec Trump est extraordinaire. Il y a eu un travail déjà sous Trump 1. Ce sont les Pakistanais qui ont fait le lien entre les talibans et Trump dans la première administration. Dans la deuxième administration, ils ont su jouer de la personnalité même de Trump. Ils ont soutenu l'idée de présenter Trump comme un homme de paix, tout simplement parce que grâce à l'implication américaine, les tensions récentes entre Inde et Pakistan ne sont pas allées trop loin. Et par la suite, vous avez eu une entrée de capitaux américains sur des projets de terres rares au Pakistan, au Baloutchistan notamment. Et depuis janvier dernier, vous avez eu un accord qui a été fait entre la boîte de crypto tenue par Trump et sa famille et des acteurs clés au Pakistan. Donc certains parleraient de corruption, on va dire que c'est de la diplomatie économique bien pensée et bien ciblée.
Alors, vous avez commencé à parler des partenaires économiques du Pakistan. Le Pakistan a pour sûr un grand nombre de partenaires, pas qu'économiques, aussi militaires et simplement stratégiques, comme Washington, Pékin, Ankara ou encore Riyad. Où est-ce que vous situez le Pakistan ? Plutôt comme un véritable allié de certains pays, comme la Chine et l'Arabie Saoudite, ou plutôt comme un État qui essaye encore de ménager tout le monde et d'être dans le dialogue ? Comment le situer en fait ?
En fait, fondamentalement, le lien entre la Chine et le Pakistan est extrêmement fort, parce qu'il date de la fin des années 50, début des années 60. Et pour la petite histoire, avant que cette relation commence véritablement, le Pakistan avait, pour une fois, tendu la main directement à l'Inde en disant « Nous avons un danger communiste à nos portes, la Chine, de Mao. Il faudrait qu'on fasse un accord ensemble, parce qu'on ne s'entend pas, certes, mais il n'y a rien de pire que l'invasion communiste. » Nehru s'est moqué des Pakistanais, qui l'ont extrêmement mal pris, et très vite, ils sont passés d'une haine du communisme à un rapprochement extrêmement fort sino-pakistanais qui existe jusqu'à aujourd'hui. Donc le rapport à la Chine, c'est la colonne vertébrale en fait, de la politique asiatique du Pakistan. Mais il n'y aura jamais un rejet des États-Unis parce que ce lien est aussi extrêmement important. Il date de la guerre froide. Et il a été très utile aux Pakistanais par le passé, même s'ils ont été périodiquement déçus. Et le fait qu'ils aient été périodiquement déçus leur a donné parfois un côté un petit peu gaullien. Donc, ils vont être proches des Américains, mais pas jusqu'à la subservience, pas jusqu'à avoir des bases militaires américaines au Pakistan. Et ça leur permet de parler à l'Iran, qui est opposé à cette présence militaire autour de lui. Mais en même temps, l'Iran comprend très bien que si les choses vont trop loin, le Pakistan à un accord, notamment avec l'Arabie Saoudite. Le Pakistan a été extrêmement clair sur le fait que frapper les capacités pétrolières de l'Arabie Saoudite, c'était inacceptable parce que c'est un allié militaire, mais aussi parce que tout simplement le Pakistan a besoin de ce pétrole venant d'Arabie Saoudite. Donc en fait, plutôt que d'avoir un équilibre qui se fait pas partout, vous avez une sorte de millefeuille qui a une base sino-pakistanaise extrêmement forte, qui a une seconde couche de rapport aux Américains qui est non négligeable parce qu'il est aussi lié à l'histoire, même s'il est moins important que celui du rapport avec les Chinois. Et pour le reste, vous avez un rapport au monde arabe et au Moyen-Orient, hors Israël, en tout cas officiellement, qui fait que le Pakistan peut en effet parler à tout le monde, d'où la situation qui existe à l'heure où on se parle.
Et pour terminer, par rapport à ces alliances, comment vous voyez le futur des relations diplomatiques pakistanaises ? Est-ce que le pays va continuer de développer ses liens ou en renforcer certains particulièrement ?
Pour l'instant, tant que les choses ne chauffent pas vraiment entre Chinois et Américains, le but va être de préserver les liens des deux côtés. Sachant qu'il est très clair pour Islamabad, comme à Rawalpindi, le cœur du pouvoir militaire pakistanais, qu'en fait, les Chinois sont des alliés sûrs, les Américains sont des alliés cycliques. ils reviennent, ils repartent, très bien. Les Chinois seront toujours les premiers alliés parce qu'ils ont un lien géopolitique extrêmement fort. Ce n'est que par l'alliance Chine-Pakistan que l'Inde peut être bloquée comme grande puissance. Et comme le disent les Chinois, il ne peut pas y avoir deux tigres dans la même montagne. Le tigre indien est un peu gênant pour le tigre chinois. Donc en fait, quoi qu'il arrive, vous aurez ce lien sino-pakistanais extrêmement fort. S'il faut résumer le Pakistan à une relation, ce sera la relation avec la Chine, pas avec les États-Unis ou les Occidentaux.
On arrive au terme de cet entretien. Merci beaucoup Didier Chaudet d'être venu décrypter le Pakistan. Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Observatoire de la Nouvelle Eurasie. Et est-ce que vous avez un ouvrage que vous voulez mettre en avant ?
En fait, plutôt que d'un seul livre, j'appellerai vraiment les auditeurs, quoi qu'il arrive, à ne jamais hésiter à se tourner vers les ouvrages anglo-saxons récents, notamment anglophones plutôt récents. La maison d'édition Oxford Pakistan, la branche pakistanaise, publie des ouvrages de grande qualité sur le pays en détail. Et globalement, c'est quelque chose que je pouvais dire quand j'enseignais à Sciences Po, les relations internationales, qu'on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, c'est une matière anglophone. Donc lire en anglais est d'une importance capitale.
Super, merci beaucoup Didier Chaudet. Et nous, on termine notre émission avec le pas de côté de Florent.
Ce que vous entendez en ce moment, c'est la voix de Nusrat Fateh Ali Khan. Même sans comprendre un seul mot, on sent tout de suite quelque chose. C'est intense, c'est puissant, ça traduit une vraie ferveur. C'est du qawwali. Nusrat Fateh Ali Khan est l'un des grands maîtres du qawwali pakistanais. J'ai eu la chance de le voir en concert plusieurs fois à Paris il y a des années. Le qawwali, c'est une musique de trance. Un chanteur principal, un chœur qui répond, des harmoniums portatifs, les tablas, ces merveilleuses percussions qu'on trouve au Pakistan et en Inde, et ce rythme qui va s'accélérer, ces phrases répétées jusqu'à ce que la salle entière se mette à taper dans ses mains, à pleurer, à crier le nom d'Allah et à entrer en trance parfois. Derrière cette musique, il y a le soufisme, le versant mystique de l'islam. Les textes sont des poèmes d'amour mystique. On parle de l'être aimé, de séparation, d'ivresse. On pourrait croire à une chanson d'amour profane, sauf que l'aimé ici, c'est Dieu, parfois le prophète ou un saint. Et au Pakistan, le qawwali n'est pas une relique du passé, c'est une musique vivante, qui remplit encore les cours des sanctuaires soufis. Mais c'est aussi une musique très ancrée dans la culture populaire. On l'entend dans les mariages, dans les bus, il cumule des millions d'écoutes sur YouTube et d'autres sites de streaming. La jeunesse pakistanaise s'enflamme sur des versions réinventées, mêlées de rock, de pop ou d'électro, ou des versions remixées, comme ce que vous avez entendu tout à l'heure dans la pause musicale. Ce qui est frappant, c'est la puissance de cette musique qui résiste à tout, au temps, aux frontières, aux guerres, aux coups d'État, aux attentats. Des groupes djihadistes ont visé les sanctuaires soufis précisément parce qu'ils détestent cette idée d'un islam qui chante, qui danse, qui mélange les gens, un islam de tolérance et d'ouverture. Mais le qawwali résiste et revient toujours. Alors quand on parle du Pakistan comme d'une puissance nucléaire, d'un pays pris dans les guerres avec l'Afghanistan et l'Iran, dans des luttes internes avec les talibans du TTP, il faut également garder en tête une autre image, celle d'une cour de mausolée un soir d'été ou d'un mariage avec des centaines de personnes, pauvres ou riches, pieuses ou non, qui reprennent toutes ensemble un refrain de qawwali. Le Pakistan, c'est un pays traversé par des conflits, avec des enjeux de frontières et de lignes de fracture intérieures, mais avec la musique, le qawwali, comme contre-pied à l'adversité et comme vecteur de cohésion.
Merci Florent, merci pour ce pas de côté et merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir suivi l'émission en ma compagnie. Si la géopolitique continue de vous intéresser, je vous donne rendez-vous le samedi 16 mai à 20h pour une nouvelle destination, un nouveau voyage et évidemment à nouveau de la géopolitique. En attendant, vous pouvez réécouter les anciennes émissions sur le site de Radio Campus Paris ou sur toutes vos applications de podcast, que ce soit Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. Merci d'être fidèle à l'oreille du monde, l'émission qui décrypte les coups de tonnerre et les murmures du globe. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.
À l'oreille du monde, géopolitique, un samedi par mois à 17h30 sur Radio Campus Paris.